dans mes filles. Pas très tôt aujourd'hui, je vais vous embarquer dans une autre région. Mais vous embarquez aussi dans une aventure qui démarre pour moi, c'est les relations de la Corrèze avec la Nouvelle-Orléans, la Louisiane. Alors, ça paraît un peu surprenant, mais c'est au travers d'une étude que j'ai faite sur les relations Bordeaux et la Nouvelle-Orléans que je me suis aperçue que c'est vrai que régulièrement, j'avais des officiers, j'avais des personnages qui avaient participé à la guerre d'indépendance des États-Unis et qui venaient de la Corrèze. Alors, pour la plupart, c'est vrai que ce sont plutôt des militaires, ce sont des officiers, mais nous avons aussi, je crois, des marchands, certainement des licoristes. Enfin, il y a des choses à trouver. Alors, je vais partir d'un exemple, celui de Bordeaux, la Nouvelle-Orléans. Pourquoi ? Parce que même les Bordelais sont très surpris de ce parcours. On a fait un parcours culturel sur ces lieux de mémoire. Pourquoi ? Je crois que, tout simplement, parce que la Nouvelle-Orléans, quand on pense à la Nouvelle-Orléans, on pense toujours à la musique. Et on ne pense pas qu'il puisse y avoir une histoire avec autre que la musique, avec la Nouvelle-Orléans. Alors c'est vrai que Bordeaux étant port négrier, c'est peut-être ça aussi qui a occulté la chose, mais c'est aussi un port pour les hommes libres. C'est-à-dire que là-bas, à la Nouvelle-Orléans, beaucoup se réclament de Bordeaux et d'Aquitaine, et ils n'ont pas du tout la même vision que nous avons. C'est-à-dire que pour eux, c'était un espace de liberté, et c'est surtout des gens libres de couleur. Donc c'était des métis, c'est ceux qui sont des oubliés de la francophonie, parce qu'ils sont ni noirs ni blancs, et disent toujours « on ne parle plus jamais de nous ». Or, nous avons notre rôle, nous sommes aussi Akita. Et c'est eux qui m'ont motivée pour reprendre un peu une histoire, un cours, et remettre en face, parce que ces gens recherchent aussi dans leur généalogie, leurs origines, pas nécessairement corréziennes, mais aquitaines. Et donc, nous les avons, ils m'ont permis de retrouver un fil conducteur. Alors, excusez-moi, c'est pas là-dessus que... Voilà, je l'ai mis sur le programme. Voilà, c'est là. OK. Alors, vous allez me dire pourquoi vous avez démarré cette étude. Ben, je vous dirais que je... Attendez, hop, ça doit aller là. OK. Donc, j'ai démarré cette étude parce que je suis à la retraite et que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Bordeaux dans ma carrière professionnelle et dans le milieu du vin. Et régulièrement, on m'interrogeait sur les Amériques, sur le marché américain, faire de la veille, faire beaucoup de choses. Et je me suis dit, un jour, j'ai rencontré aussi des négociants qui avaient une histoire. J'ai vu des Corréziens aussi qui avaient une histoire dans les vins de Bordeaux, mais qui étaient d'origine corrézienne. Et donc, toutes ces personnes, je me suis dit, un jour, il faut absolument qu'on retrouve la trace, qu'on retrouve un fil conducteur. Donc, nous avons créé une association qui s'appelle Aquitaine Québec et Amérique du Nord francophone. C'est une association, si vous voulez, toute petite association, avec des gens qui appartenaient à l'entité France-Québec ou France-Louisiane. Et on s'est dit que ce qui nous animait, c'était de retrouver une cohérence sur le fait historique du Labrador aux Caraïbes. Parce que ça nous paraissait un peu anachronique de séparer les deux pays, parce que ce qui a concerné la Nouvelle-France a concerné à un moment donné la Louisiane. Hein, la Nouvelle-France se situe plus au XVIIe siècle, et la Louisiane, l'apogée, c'est surtout fin XVIIIe et XIXe jusqu'à la guerre de Sécession. Donc c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant de créer, via le support Internet, un réseau de spécialistes. Alors ces spécialistes sont à la fois en France, mais aussi outre-Atlantique. Donc nous avons identifié une vingtaine de communautés francophones sur le continent nord-américain qui ont une histoire avec la France et qui sont contents, via l'outil Internet, de communiquer. Donc il s'agit aussi d'une démarche sur la langue, l'entretien de la langue et sur l'entretien de cette culture qu'on a à partager en commun. Donc notre action se situe dans la participation à des colloques, organisation des rencontres. Donc c'est créer surtout des opportunités de rencontres conviviales, parce que là c'est vraiment le principe, on ne se prend pas la tête. Il faut que ce soit fluide et que ce soit un moment de partage. Et être disponible aussi pour tous les invités, tous ceux qui le désirent, qui sont de passage à Paris ou à Bordeaux, de les mettre en phase avec leur histoire. Donc, il nous a paru important, vous l'avez souligné tout à l'heure, que actuellement, pour une association, la difficulté, c'est qu'on n'est plus dans l'ère des subventions. Donc, c'est terminé. Donc, il faut susciter l'intérêt des institutionnels ou des privés sur des documents concrets ou sur des colloques, sur des choses, des réalisations concrètes. Donc, nous avons sensibilisé l'Office du tourisme de Bordeaux il y a 2 ans sur Bordeaux-Québec, sur un parc culturel Bordeaux-Québec. Nous avons aussi réalisé en 2018 un carnet de voyage sur la grande Louisiane française avec des interlocuteurs d'Ontario. Donc, ça a été un travail conjoint avec des chercheurs de l'Ontario. Et le tricentenaire de la Nouvelle-Orléans en 2018 a été l'occasion de faire un document Bordeaux, donc la Nouvelle-Orléans. Pour ceux que ça intéresse, nous laisserons à votre disposition ce document. Et s'ensuit aussi un nombre de conférences et de parcours avec l'Office du tourisme. Donc l'Office du tourisme de Bordeaux nous a aidés financièrement. Nous avons eu l'ambassade des États-Unis et puis nous avons eu aussi des maisons de négoces comme, Château-Montrose ou la mission Aubryon, puisque le prince de Luxembourg, contrairement à son nom, est d'origine américaine. Donc nous avons frappé à la porte de partenaires américains ayant une activité à Bordeaux. Et l'objectif en 2019, c'est l'inauguration d'une maison Seigneuret Brûlatour. C'est un de nos interlocuteurs à la Nouvelle-Orléans, c'est le Historical New Orleans Collection. Donc c'est une fondation privée, donc nous appuyons sur des fondations privées pour financer aussi des partenariats, hein, parce que ce document que nous avons réalisé, nous l'avons aussi fait tout de suite en anglais, de façon à ce qu'il soit distribué là-bas. Donc on a travaillé en partenariat avec eux, parce qu'ils ont un fonds d'archives impressionnant sur l'Aquitaine, et ils acquièrent toutes les archives qu'ils peuvent trouver à travers le monde concernant leur histoire. Et donc cette maison qui se trouve dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, sur Royal Street, est vraiment stratégique. Et il fallait qu'il y ait un chapitre sur Bordeaux et l'Aquitaine et aussi la Corrèze. Donc ça a été un petit peu... c'est pour ça que nous avons été un peu vite pour trouver, pour avancer sur ce dossier. Voilà, donc ça c'est un aperçu de ce que c'était que la grande Louisiane française avant le traité de Paris en 1763. Donc nous voyons que la partie anglaise se situe sur le long du volet de l'Atlantique. Et la Grande Louisiane, ça va vraiment des grands lacs au bassin Caraïbe. Sachant qu'à partir du traité de Paris en 1763, l'Illinois, Ohio, Tennessee va repartir dans le patrimoine des Anglais. Et tous les autres États seront donc dans le patrimoine France et espagnol plus tard, hein, parce qu'on oublie souvent cet épisode de la Louisiane espagnole. Mais je vous dirais que les Acadiens, quand ils ont quitté le Nouveau-Brunswick poursuivi par les Anglais et qui sont venus se réfugier dans le Sud, ils sont arrivés dans un pays, ils ne se sont même pas aperçus que la Louisiane était devenue espagnole entre-temps. Donc ça veut dire que ça s'est très très bien passé avec les différents gouverneurs espagnols. Voilà, donc ça c'est la brochure qui a été réalisée. Donc d'un côté on voit Saint-Louis, donc Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans, la cathédrale Saint-Louis et l'hôtel Fenwick à Bordeaux. On verra qu'il y a une similitude dans certains bâtiments entre les deux lieux. Alors, quelques repères historiques concernant la Louisiane. Il faut se dire que c'est en 1603 que Québec a été fondé. C'est pour vous donner un ordre d'idée dans le temps des différentes créations de villes. Dont 1603, Québec est créé sous l'impulsion d'Henri IV. C'est vrai qu'il y a tout un travail qui mériterait d'être fait sur ce grand roi qui a vraiment favorisé, qui a incité les Français à s'expatrier, à émigrer vers la Nouvelle-France. La fondation de la Louisiane, Elle est donc née avec René Robert Cavalier de La Salle en 1682. Donc ça, c'est la date officielle. C'est vrai que c'est un territoire qui était complètement... qui n'intéressait pas les Espagnols, parce qu'il n'y avait pas d'or, c'était la recherche de l'or. Donc ils sont partis plus vers le sud. Mais les Espagnols étaient passés bien avant par la Louisiane. C'est vrai qu'à l'époque, la Louisiane, c'était une série de forts le long du Mississippi. Et souvent, ils apparaissaient, ils disparaissaient au gré. C'était des forts qui étaient très peu peuplés. C'était des petites garnisons. Il y avait 2 ou 3 militaires. Mais ils étaient donc encerclés de tribus. La fondation de la Nouvelle-Orléans, elle est due à Jean-Baptiste Lemoine de Bienville en 1718. Donc là, année donc du tricentenaire. Et cette Nouvelle-Orléans, on verra qu'elle est due en partie à la découverte d'un sieur Jean-Charles de Pradel de la Masse qui venait du Zerche. Donc ça, il était parti comme militaire, il a défriché et il a mis ses compétences au service de Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, qui lui s'est aussi assis sur des grands architectes de l'époque. Les architectes à l'époque étaient aussi des peintres, notamment un Leblon de la Tour qui venait de Bordeaux. Leblon de la Tour, c'était son père était peintre officiel à Bordeaux. Un des fils est parti à Québec et l'autre est parti en Louisiane. Et il s'est appuyé sur Adrien de Bauger pour la création de la ville de la Nouvelle-Orléans. En 1803, malheureusement, on assiste à la vente de la Louisiane, malheureusement pour les francophones qui y vivent, par Napoléon, pour 5 millions de dollars, tout simplement parce que pour Bonaparte, à partir de 1781 jusqu'en 1804 et un peu au-delà, c'est une période de troubles et on voit l'émergence avec les premières, avec Toussaint l'Ouverture notamment, de l'aboutissement d'une révolte qui mène à la création du premier État noir des temps modernes, puisque Saint-Domingue devient Haïti. C'est vrai que pour Bonaparte, si vous voulez, Saint-Domingue, c'était la perle des Caraïbes. Saint-Domingue, et ça a été catastrophique, puisque pour beaucoup de créoles de Saint-Domingue, c'était l'exil, quoi. Ils étaient bannis, il n'y avait plus de place pour les Blancs, ni pour les créoles. Et donc, 10 000 créoles sont arrivés de Saint-Domingue à la Nouvelle-Orléans, qui à l'époque comptait seulement 7600 habitants. Donc vous voyez que ça, c'était assez catastrophique, l'arrivée de ces créoles à la Nouvelle-Orléans, puisqu'il n'y avait pas du tout les infrastructures. Ces créoles, alors le profil est intéressant de ces créoles qui venaient de Saint-Domingue, parce qu'il y avait un tiers de planteurs, un tiers d'esclaves et un tiers d'hommes libres de couleur. Et c'est ce un tiers d'hommes libres de couleur qui ont fait un peu bouger les choses au niveau de la société de la Nouvelle-Orléans qui vivotait, parce que c'était une ville qui n'avait pas du tout l'impact qu'elle va connaître par la suite. Mais ils ont amené leur expertise en matière de médecine, d'ingénierie, dans tous les domaines, au niveau de l'imprimerie. Les gens de Saint-Domingue vont introduire l'imprimerie à la Nouvelle-Orléans. Donc ça va être, ils vont amener aussi tous les artistes. La première Marseillaise noire, par exemple, a été écrite par des gens de Saint-Domingue à la Nouvelle-Orléans. Et au XXe siècle, c'est cette même communauté, cette élite d'hommes libres, de descendants d'hommes libres de couleur, qui va être à l'origine des droits civiques aux États-Unis. On l'oublie souvent parce qu'on se dit, oui, la Louisiane, c'est un État esclavagiste. La Nouvelle-Orléans, c'est une exception. La Nouvelle-Orléans, c'est, si vous voulez, une société où il y avait à l'époque 40 journaux bilingues, donc ce qui vous montre quand même l'importance de la vie intellectuelle à l'époque. Et c'est fort intéressant, l'histoire même au XXe siècle, de ces gens qui sont à l'origine des droits civiques aux États-Unis. Et ça reste encore un foyer de résilience active par rapport au racisme que connaissent les États-Unis. Donc l'âge d'or de la Louisiane, ce sera de quand elle va devenir finalement américaine. Donc c'est de 1812 à la guerre de sécession qui se situe en 1861-1865. Donc on peut dire que c'est l'âge d'or pour la Louisiane. Et c'est aussi un Eldorado pour tous les immigrés néo-Aquita, hein, ou les réfugiés politiques, nous verrons, en fonction des différentes régions, ceux qui sont. Alors la Louisiane actuelle, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la grande carte que je vous ai montrée, donc vous voyez qu'elle ne représente plus qu'un douzième de ce qu'elle était au départ. Hein. Et pour vous comparer un peu avec la région Nouvelle-Aquitaine, je vous ai donné quelques chiffres. La Louisiane actuellement, elle compte à peu près 4 700 000 habitants sur une surface de 135 000 km². La Nouvelle-Aquitaine, pour vous dire, c'est 6 millions d'habitants pour 84 000 km². La Nouvelle-Orléans métropole, c'est 1,2 million d'habitants et c'est 12 millions de touristes. Je le dis au passage parce que c'est vraiment un spot touristique sur les États-Unis. Et Bordeaux métropole, c'est 850 000 habitants. Donc on voit que les rapports sont... vous avez un ordre d'idée sur l'importance de ces villes. Alors, la Nouvelle-Orléans se trouve comme Bordeaux, c'est des ports, hein, donc c'est une ville d'estuaire. Vous avez Baton Rouge, qui est la capitale de la Louisiane, et vous avez aussi la ville de Lafayette, qui est en quelque sorte la capitale de la francophonie. C'est là, à Lafayette, que se sont installés les Cajuns, les Acadiens, qui sont venus du New Brunswick suite au grand dérangement en 1755 et qui se sont implantés principalement dans ce triangle, si vous voulez, que vous voyez en rose là. D'accord ? Voilà. Il reste aussi des créoles. Vous voyez au-dessus, dans la partie jaune, du côté de Natchez. Et au-dessus, vous aviez la première ville louisianaise francophone, Natchitoches. Voilà, où vous avez aussi des gens qui réclament leur passé français, créole. Alors, j'utilise créole dans le sens au 19e siècle, c'est-à-dire c'est né hors de France, d'accord, hors métropole. Actuellement, créole, c'est métis. Hein, il y a un terme, il y a une terminologie à préciser. Voilà. Alors, c'est une lithographie qui nous a été prêtée par le Historical New Orleans et elle est intéressante parce que, curieusement, il y a eu vraiment une coïncidence avec la ville de Bordeaux. La plupart des gens à qui j'ai montré cette lithographie m'a dit « mais c'est Bordeaux ». Je dis « non, c'est pas Bordeaux ». Et là-bas, donc, vous voyez qu'il y a quand même des similitudes au niveau de la morphologie. Là-bas, on l'appelle le port de la Lune, le port du Croissant, la ville du Croissant, et Bordeaux, on parle de ville de port de la Lune. Donc, nous voyons que les lieux de mémoire, parce qu'il a fallu faire une sélection de quelques lieux de mémoire, parce que ça faisait beaucoup autrement, nous avons sélectionné à peu près 13 lieux de mémoire à Bordeaux concernant... la Louisiane, enfin la Nouvelle-Orléans. Alors ceux du Québec qui se trouvaient plus vers les quartiers 17e. Là, on est plus dans les quartiers 18e, 19e de Bordeaux. Et nous allons voir que les quartiers qui sont particulièrement concernés par cette histoire de la Nouvelle-Orléans. Mais nous voyons déjà la zone de Jardin, la place des Quinconces, donc c'est vraiment dans le Bordeaux classique 18e, que nous allons voir voilà, les différents bâtiments. Alors, on part toujours de la place de la Bourse, hein, qui est l'endroit central, si vous voulez, de l'activité du commerce fluvial. Et donc, la chambre de commerce, évidemment, était chargée donc, de développer le négoce, et en particulier avec les colonies. Alors, c'est aussi là que s'est déroulé le fameux classement de 1855 pour les vins de Bordeaux, notamment ceux du Médoc et de Sauternes. Et ces grands crus classés restent encore fort d'actualité sur le marché américain et plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans, qui compte encore qui compte de nombreux, je vous ai dit, 12 millions de touristes qui viennent à la Nouvelle-Orléans, et souvent c'est aussi pour toute la gastronomie. Gastronomie associée au vin et à une gastronomie aussi française, mais amérindienne, espagnole, qui est vraiment un melting pot, mais fait de produits frais, parce qu'en Louisiane, on est aussi dans une région subtropicale. Donc, quand on parle de la Nouvelle-Orléans, on ne peut pas s'empêcher de parler de gastronomie et aussi de vin de Bordeaux. Alors, vous avez des immeubles qui se trouvent donc aux alentours des allées de Tourny, qui est juste en face de l'office du tourisme près du Grand Théâtre. Donc, c'est vraiment le quartier classique 18e à Bordeaux. Et nous avons des personnages qui sont très célèbres à la Nouvelle-Orléans. Alors là, je vous ai mis l'hôtel Gobideau, qui est la maison du vin à Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses fort intéressantes quand vous allez dans ce bâtiment, pas directement liées avec la Nouvelle-Orléans, mais vous avez d'abord une table d'orientation pour le vignoble, mais vous avez des vitraux de buteaux qui sont fort intéressants, et vous avez des allégories concernant le vin, mais aussi toutes les destinations des vins de Bordeaux depuis toujours, je dirais. Voilà. Donc là, vous avez un bâtiment qui a été construit, qui s'appelle la Maison égyptienne, et qui a été construit par un architecte qui venait de Bordeaux, un certain Laclotte, Jean-Hyacinthe Laclotte. Alors les Laclotte à Bordeaux, ils sont très célèbres parce que c'est une dynastie qui a construit pratiquement beaucoup d'églises, beaucoup d'hôtels particuliers. Et notamment l'hôtel de la Lande, qui se trouve rue Bouffard, ou l'hôtel de la Bottière. Enfin, il y a énormément de bâtiments qui ont été construits par les Laclotte. Et lui, c'était le neveu. Donc il est parti, on ne sait pas trop pour quelle raison. Il avait envie d'air, il avait envie d'aventure. Il est parti à la Nouvelle-Orléans et il est devenu très célèbre là-bas. Quand il est revenu à Bordeaux, alors il est parti en 1803, quand il est revenu à Bordeaux 20 ans plus tard, il s'est associé avec un autre architecte, ce qui s'appelait Riatort, et donc il a construit donc une dizaine de bâtiments à Bordeaux, mais aussi il est intervenu dans le vignoble, notamment à Château-Branner-du-Cru. Voilà, donc on voit qu'il y a un style classique qu'on retrouve à la fois dans les plantations et qu'on retrouve aussi à Bordeaux. Pas toujours avec les mêmes matériaux, parce qu'en Louisiane, on les trouve, c'est des constructions en bois. Là, c'est plutôt de la pierre taillée. Alors, Laclotte est surtout célèbre pour les Américains, pour ce tableau, parce que ce tableau raconte la grande bataille de la Nouvelle-Orléans en 1812, où les Français aide les Américains contre les Anglais et grâce à l'aide de Bordelais, notamment les fameux pirates, qui sont Pierre et Jean Lafitte, vous avez dû en entendre parler, parce que le port de Bordeaux, il y a eu à peu près 1000 armements de corsaires qui sont partis de Bordeaux, donc ce qui était important. Et ces corsaires menaient une économie parallèle à la Nouvelle-Orléans, mais aussi dans tout le bassin caraïbe, hein, de trafic de munitions, d'esclaves, et tout ça se faisait, je dirais, à la barbe des Américains. Mais pour le coup, ils se sont associés pour bouter, si vous voulez, les Anglais hors de Louisiane. Donc ça, c'est vraiment un tableau emblématique de cette période en Louisiane. Alors, nous arrivons dans un autre quartier qui est très célèbre, c'est le cours Xavier Arnezan, qui autrefois s'appelait le pavé des Chartrons. Hein, les Chartrons, c'était un endroit où se trouvaient situés tous les grands négociants du grand commerce international. Donc ils étaient irlandais, ils étaient anglais, ils étaient allemands. Et ils avaient des hôtels particuliers. Et là, nous allons voir qu'il y a un personnage très célèbre, plus célèbre à la Nouvelle-Orléans qu'à Bordeaux d'ailleurs, parce qu'il n'a aucune rue qui qui est à son nom et on en parle très peu. Mais Seigneret, François Seigneret, sa famille était viticulteur par sa mère. Lui, il était tailleur d'habits. Et il est parti en 1803 à bord d'un bateau qui s'appelait le Franklin. Et là-bas, il est parti à l'aventure. Mais il a vu très vite là-bas que les meubles qui venaient à la Nouvelle-Orléans, si vous voulez, venaient de Paris, se décollaient, n'étaient pas du tout adaptés au climat. Donc il a fait local à l'époque. Hein, il a pris de l'ébène, de l'acajou de Cuba. Et il a un petit peu rendu ses sièges, ses armoires plus ergonomiques, plus adaptées à la vie des créoles là-bas. Et c'est des meubles qui sont très recherchés sur le marché américain. À l'époque, je ne connaissais pas du tout Seigneret. J'avais des amis en Californie qui me disaient « Si tu peux nous trouver des meubles Seigneret, tu nous fais signe. » Je ne pensais pas que ça avait une telle valeur, mais c'est très important là-bas. On en trouve dans toute à la Maison Blanche. Enfin, Seigneret a vraiment fait sa fortune par les meubles. Quand il est revenu à Bordeaux, eh bien, il s'installe au Chartron. Et là, il va acquérir un important patrimoine immobilier. Il va construire son hôtel particulier. Il aura tout un bloc de maisons qui vont lui appartenir. Et il aura sa salle de spectacle. Il sera également propriétaire de deux ou trois châteaux. Trois châteaux à Bordeaux, notamment le château d'Ilon à Blanquefort. Et il aura aussi une maison de négoce. La maison de négoce existe toujours, elle n'appartient plus à la famille, mais le nom est toujours vivant. Voilà, après sa maison à la Nouvelle-Orléans, nous allons voir sa maison à la Nouvelle-Orléans, c'est sa maison qui est l'espace culturel dont je vous ai parlé, qui sera inaugurée en 2019 sur l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Et donc, sa maison à la Nouvelle-Orléans sera aussi vendue à un autre Bordelais qui s'appelle Jules Brûlatour, qui était aussi négociant en vin et qui fut également le père du cofondateur d'Universal Pictures. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a qui ont été un peu plus loin. Voilà, il y a l'hôtel. Alors là, vous avez rue Ferrer, les entrepôts Lainé, qui sont des entrepôts de doré colonial. C'était construit en 1822. Et maintenant, c'est reconverti en lieu culturel. Voilà, donc ils avaient prévu aussi de créer une halle au coton, hein, mais la première pierre fut posée, mais le bâtiment ne fut jamais construit, faute d'investisseurs. Donc ça montre aussi l'importance du port de Bordeaux pour l'importation du coton à l'époque. Or, ça, on a retrouvé ça dans des guides anciens, hein, parce que maintenant, on parle de halle de coton, personne n'a entendu parler la chose, mais c'était indiqué dans les guides au XIXe siècle. Voilà. Et puis, alors, Fenwick, Joseph Fenwick était un Irlandais, négociant, ami de Washington. Washington le nomma consul des États-Unis en 1791. Donc, c'est à Bordeaux que fut, si vous voulez, créer le premier consulat des États-Unis hors États-Unis, sachant qu'à Paris, quand Jefferson était ambassadeur, il n'avait pas un endroit fixe. Là, c'est le premier hôtel. Et donc, ce qui est intéressant dans cet hôtel, c'est qu'il est de style néoclassique. Et nous allons voir quelques... Voilà, donc ça, vous avez l'alignement des balcons sur trompe qu'on voit dans le quartier des Chartrons. Donc c'est là que se trouvaient toutes les dynasties, les Lotton, les Barton, les Johnstone, enfin toutes ces familles qui ont fait la richesse des vins de Bordeaux. Là, vous avez l'hôtel particulier de Seigneret. Voilà l'hôtel particulier de Seigneret, voilà un portrait de Seigneret. Voici l'hôtel particulier de Seigneret à la Nouvelle-Orléans. Et donc c'est cet espace-là qui va être ouvert comme espace culturel. Voilà le mobilier Seigneret, tel qu'on peut le voir à la Nouvelle-Orléans. Donc il y a du style directoire, consulaire, on retrouve un peu tous les canons classiques de l'époque. Peut-être beaucoup plus de souplesse que certains meubles ici, parce que c'est vrai qu'il y avait tout un art de vivre créole très particulier. Voilà l'intérieur de la maison Seigneret qu'on a vu dans l'angle. Alors là, je suis avec un groupe d'Américains, justement de la Nouvelle-Orléans, du Historical New Orleans, qui voulaient venir sur les lieux de mémoire consacrés à leur ville. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on a de la matière pour présenter aux Américains qui veulent en savoir plus sur leur histoire. Voilà. Et voilà Château Dillon. Et voilà le logo de la maison seigneurienne. Voilà. Et vous avez la salle Franklin qui ressemble à l'opéra de la Nouvelle-Orléans et qui reste encore une salle de spectacle pour le ballet du Grand Théâtre de Bordeaux. Mais c'était une salle privée. Hein, alors il y a encore des descendants, des gens qui ont... Enfin, la famille Di Pace, par exemple, à Bordeaux, ils se rappellent que quand ils avaient 17 ans, ils faisaient le rentrer dans le monde, dans cette salle. L'hôtel Fenwick, voilà, qui est très beau, avec son grand balcon qui... Voilà, actuellement, ce n'est plus du tout le consulat des États-Unis, hein, ce sont des bureaux, mais ça vous montre l'importance de cette architecture avec les tours dites Philadelphie, là au-dessus. Et puis vous avez les rostres. Donc c'est des sculptures qui sortent de la terre, qui sont à l'entrée. Alors il y a un autre bel hôtel, c'est l'hôtel McCarthy, qui là fut aussi un hôtel d'un négociant irlandais qui s'appelait Daniel McCarthy, et qui était à la tête de la chambre de commerce de Bordeaux, et qui était cousin avec des McCarthy à la Nouvelle-Orléans. Et ils avaient un château qui est toujours d'actualité. Le château McCarthy, c'est une marque qui existe encore et qui se trouve à Saint-Estève. Alors, quand on cherche des témoignages, enfin des témoins un petit peu de toute ces échanges qu'il y a eu avec la Louisiane, nous avons aussi des arbres remarquables. Et il y a une très belle collection au Jardin public de Bordeaux de cyprès chauves. Donc ce sont des grands conifères à feuilles caduques qui sont caractéristiques des bayous de la Louisiane. À cela, vous avez aussi tous les magnolias, vous avez les orangers des Osages, enfin, il y a une multitude d'arbres qui sont identifiés et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les propriétés viticoles de Bordeaux. Alors au musée d'histoire naturelle, vous avez des collections de grands propriétaires du XVIIIe et XIXe siècle, notamment des alligators ou des tortues boîtes thérapènes d'Amérique. Voilà. Vous avez là aussi au musée des arts décoratifs, là vous avez une terracotta qui représente l'Amérique. Et qui provient de l'hôtel Fenwick. Et au musée des arts décoratifs et du design, vous avez aussi les portraits d'un miniaturiste qui s'appelle Colla, qui a peint toutes les personnalités de l'époque à Bordeaux, mais aussi en Russie, et qui est parti à la Nouvelle-Orléans pour faire fortune en peignant tous les créoles, les personnalités qui comptaient à l'époque dans le monde économique et politique. Et ça, c'est très intéressant parce que nous avons des portraits des Parlanges, des Gardères, les premiers banquiers, ces gens de Saint-Domingue qui avaient fait fortune et qui se sont implantés à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est des témoignages, des témoins intéressants de cette... C'est des sources d'informations fort intéressantes. Et de même, il y a tout un mobilier portuaire fort intéressant qu'on retrouve à la fois à la Nouvelle-Orléans, mais qu'on peut trouver aussi à Nantes, qu'on trouve au Havre, qu'on trouve dans toutes les villes transatlantiques. Voilà. Et à la cathédrale Saint-André, eh bien, vous avez le tombeau du cardinal de Chevreuse, qui fut le premier évêque de Boston avant de venir à Bordeaux en 1826. Et tout près se trouve dans la place Péberlan. Ils ont replanté des pacaniers, hein, qui est aussi un arbre emblématique de la Louisiane. Et vous avez tout près de la place Péberlan la rue Élisée-Reclus, qui nous rappelle que ce géographe qui était très engagé est parti à l'âge de 20 ans en Louisiane, où il s'est installé. Et il a vécu pendant quelques années sur la plantation Fortier, où il a observé, où il fait état justement des relations entre le maître, les esclaves, les relations. Vous avez aussi un autre célèbre... Parlanche qui venait de Bordeaux qui est parti pour la Nouvelle-Orléans et qui s'est rendu célèbre notamment dans le roman de Denusière sur la Louisiane. Voilà, cour Pasteur, il y a le musée d'Aquitaine qui est intéressant parce qu'il a des salles qui parlent justement de cette société esclavagiste et qui parle un peu des différents des aspects de la situation de l'esclavage aux colonies françaises et de la société créole telle que l'a connue aussi la Nouvelle-Orléans. Rue Chez des Farines, alors c'est dans les vieux quartiers, vous avez une maison Loucoul. Alors ce Loucoul est intéressant parce que quand il est parti en Louisiane, il a épousé une riche héritière là-bas et il s'est trouvé à la tête de la plantation Laura Plantation, qui est très connue là-bas, qui est vraiment le site de visite à voir pour ceux qui s'intéressent à la culture francophone créole. Alors nous sommes allés aussi au cimetière de la Chartreuse, et le cimetière de la Chartreuse, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a été créé en 1791, à peu près à l'époque, à la même époque que le cimetière Lachaise à Paris, et il referme justement des personnalités très connues, et certaines venaient de la Nouvelle-Orléans. Bon, j'ai identifié 8 tombes, et au cimetière protestant, c'est pareil, mais c'est plutôt des banquiers. Et nous avons retrouvé aussi une famille de navigateurs de Natchez, de colonels de Natchez. Donc les cimetières sont des sources d'informations très intéressantes, surtout que ce sont de véritables sépultures, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà la tombe de Marmiche, qui est un négociant d'origine irlandaise. Et ça, c'est la chapelle dans laquelle lui, il est enterré à New York, parce qu'il est mort un peu plus tard. Sa jeune femme fut enterrée là. Et il est inscrit sur la plaque. Ici repose Euphrosine Périlla, née à la Nouvelle-Orléans, le 8 septembre 1812. Nous avons retrouvé donc à peu près une dizaine de tombes de ce type-là. Alors, en rive droite, il y a un bâtiment qui est assez intéressant, parce que c'est vrai que Bordeaux a toujours été ouvert aux nouveautés, enfin à la musique, mais aux nouveautés musicales aussi. Et bien souvent, on oublie ce grand violoniste et compositeur qui venait de la Nouvelle-Orléans, Edmond Dédé, qui dirigea l'orchestre à l'Alcazar. Donc vous avez la façade de l'Alcazar, qui était une salle, le premier music hall en quelque sorte, et qui en dirigea l'orchestre pendant 27 ans, et issu donc homme libre de couleur. Il faut savoir que Bordeaux a accueilli aussi tous les grands noms du jazz qui étaient ravis de venir en France pour la liberté qu'ils n'avaient pas dans leur pays. Et les allées de Tourny, ces grandes allées sur les quais, il y avait, quand on regarde les récits de l'époque, il y avait beaucoup d'animations musicales. Beaucoup de ces Africains, enfin de ces Américains d'origine africaine étaient pendant la Première Guerre mondiale, on les mettait plus dans la logistique ou pour le ravitaillement, on les mettait pas du tout dans l'armement, parce qu'ils craignaient qu'ils prennent un peu le bout des armes au retour aux États-Unis. Donc ils s'occupaient surtout d'animation, de logistique, donc tout ça c'est un héritage qui... dont on peut voir des extraits, si vous voulez, dans la presse. Voilà. Alors, d'autres investisseurs américains dans le vignoble, on l'avait un petit peu évoqué tout à l'heure. Alors, j'ai recensé Célestin Ciappella. Alors, Célestin Ciappella, son histoire est assez particulière. Il était régisseur de propriété en Louisiane. Il avait 6 enfants et il est revenu à Bordeaux. Et quand il est revenu à Bordeaux, il a acquis la mission Aubryon, si vous voulez, où il a restauré le vignoble. Il en a fait un vignoble performant. Et sa marque était très réputée à la Nouvelle-Orléans. C'était 2C, CC. Voilà. Et c'est un peu un clin d'œil, puisque en 83, Domaine Clarence Dillon, qui était propriétaire du château Aubryon, a acheté ce domaine-là aussi. Donc il y a à la fois une touche néo-orléanaise et puis une touche américaine. Voilà, donc on a la tombe de Loukoul là, qu'on a mis pour. Mais ça, c'est dans le cimetière de la Nouvelle-Orléans. Donc là, on voit la maison Seigneuret Brûlatour. Et là, c'est un petit rappel de la maison Laura Plantation entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge. Voilà, donc ça, c'est le château La Mission Brion. Et ça, c'est la tombe de son ancêtre, de la famille Chiapella, mais à la Nouvelle-Orléans. Donc on voit qu'il y a quand même une similitude aussi entre les cimetières, le cimetière de Bordeaux et le cimetière à la Nouvelle-Orléans avec cette architecture néoclassique. Voilà, alors maintenant on arrive à la Corrèze. Alors c'est vrai que je vous ai dit que l'objectif de notre association c'était de faire des documents, des brochures, parce que ça c'est concret hein, et qu'on peut les utiliser dans des parcours touristiques. La finalité, c'est de faire du buzz autour de cette histoire qu'on a en commun. C'est de la faire vivre. Par exemple, les parcours qu'on organise, là j'en ai eu trois au mois de entre novembre et décembre. J'affiche complet quoi, parce qu'il y a vraiment une forte demande pour en savoir un peu plus sur ces parcours. Et Air France s'intéresse aussi parce qu'ils y voient un intérêt pour les destinations, pour que voilà Bordeaux destination, mais aussi Québec et aussi la Nouvelle-Orléans. Donc on a beaucoup de demandes pour ces parcours. Donc l'objectif dans notre association, c'est de faire connaître des choses un peu insolites, peu connues. Pour découvrir un peu plus la Nouvelle-Aquitaine. Alors l'an dernier, nous faisons chaque année une sortie au mois de mai. Il y a deux ans, c'était dans le Béarn, parce qu'on connaît bien le Pays Basque et ses émigrés qui sont partis vers les Amériques. Mais on connaît moins le Béarn, qui se trouve plus à l'intérieur des terres, donc, et qui compte de nombreux gouverneurs de Louisiane. Donc on avait fait un parcours culturel. Et cette année, on s'est fixé comme objectif de venir en Corrèze, hein, donc le 30 mai, si vous êtes intéressés. Mais en attendant, il faut trouver des choses, il faut trouver des lieux. Donc Rocamadour sera un des lieux phares qui sera... Mais Rocamadour, c'est pas en Corrèze, c'est pas loin. Parce que pour la bonne raison que chaque fois qu'on traversait l'Atlantique, on priait Notre-Dame de Rocamadour de façon à ne pas subir, à être sûr d'arriver à bonne destination. Donc mes pistes actuelles, c'est bien ça. Je fais un inventaire. D'abord, des officiers du Limousin qui sont partis à la guerre d'indépendance américaine. J'ai trouvé, par exemple, j'habite à Tudeil, mais j'ai trouvé que même à Tudeil, il y a des choses, il y a une histoire en 1718, un peu plus tard, puisque un certain François de Gimel a son fils Pierre, qui est commissaire d'artillerie et qui part à l'âge de 58 ans, donc il n'est plus très jeune, mais il part à la guerre d'Amérique. Et puis il passera ensuite à Saint-Domingue. Et il sera fait chevalier de Cincinnati sur proposition de Lafayette. Alors Lafayette est un personnage aussi très intéressant, parce que c'est Lafayette, premier gouverneur de Louisiane. Et il nous intéresse aussi parce qu'Adrienne de Noailles, son épouse, donc je n'ai pas encore prospecté le fonds de Noailles qui se trouve aux archives départementales, mais c'est fort intéressant parce que c'est une famille qui est célèbre à la fois pour sa dimension internationale. Et donc nous avons aussi des militaires et des colons partis à la Nouvelle-Orléans. Chevalier Pradel, originaire du Serche, qui s'installe en 1715. Alors là, je l'ai su par des amis qui m'ont appelé de la Nouvelle-Orléans, parce que c'est ça l'avantage du réseau, c'est qu'on vous appelle. Et donc, fin octobre, on me dit, est-ce que tu connais pas des Pradel de Lavaux, qui sont sur Bordeaux, parce que nous allons recevoir une délégation de 22 Pradel à la Nouvelle-Orléans pour le 2 novembre. Alors, je me suis renseignée sur les Pradel de Lavaux, en effet, propriétaire à Bordeaux, 8 châteaux, et propriété de Lavaux près du Serche, une propriété de 600 hectares, donc c'est pas petit. J'ai rencontré la famille, extraordinaire, ils allaient à la Nouvelle-Orléans, ils ne savaient pas trop quel était le passé de leur famille. parce que la partie historique est gérée par une autre branche de la famille qui se trouve, les Pradel de la Masse, qui se trouvent à Paris et qui se partagent entre leur château de Normandie et Paris. Mais il y a quand même eu des choses écrites, donc je suis en train de chercher l'ouvrage, je vais le trouver aux archives, je crois, ou peut-être à la Société historique, sur l'histoire de ce chevalier, ce Corrézien, parti en Louisiane. Alors, il y en a un autre aussi qui a participé à la création de la, du début, si vous voulez, de la Louisiane. C'est le comte Pierre de Lavergne, chevalier de Saint-Louis, est né à Brive-la-Gaillarde et qui a débarqué là-bas en 1766. Alors, d'autres pistes à prospecter, ce sont tous les créoles de Saint-Domingue qui venaient de Saint-Domingue et qui sont passés à la Nouvelle-Orléans. Alors, il y en a... Là, il faut qu'on vérifie tout. Alors là, j'ai oublié de vous dire, je travaille pour l'aspect avec Saint-Domingue, avec un historien spécialisé sur l'espace Caraïbes, c'est Jacques de Cona, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, parce qu'il a vécu là-bas... comme attaché culturel pendant 17 ans à l'ambassade de France. Et il a beaucoup travaillé sur les archives, et notamment toutes ces familles qui venaient du Béarn, qui venaient d'Aquitaine, et qui s'étaient implantées donc, à Saint-Domingue. Donc les Gérasson, les Vergniaud, les Grandchamps, les De Rouillac, de Fontanges, de Sédières, les Jugis de la Chapelle, voilà, et l'arpenteur du roi aussi, François Delors. Alors François Delors, on le voit, c'était un oncle de Jean-Augustin Peynière. Je ne sais pas si d'entre parmi vous, certains connaissent ce Jean-Augustin Peynière, qui fut un personnage un peu hors du commun, du destin hors du commun. Et c'est un conventionnel, régicide. Et régicide d'abord, conventionnel. Il a, pendant les temps troubles de la Révolution, plutôt girondin que montagnard, mais enfin, il a réussi à garder sa tête, et bonapartiste, quand il fallait, mais comme régicide, quand le retour de Louis-Philippe au pouvoir, il était banni de France, et à ce moment-là, comme il avait une carrière, il était quand même 6 fois député du Sel, né à Saint-Julien-en-Bois, il a essayé de lancer une carrière d'entrepreneur dans le verre qui a été une faillite. Et donc il est parti, il a pris le bateau d'Argentat et puis il est parti à Bordeaux où il s'est embarqué pour les États-Unis avec des lettres de recommandation de Lafayette. Il a été reçu par Washington quand il est arrivé en homme d'État. Et les Américains lui ont dit, écoute, c'est bien simple, vous pouvez avoir une concession, les Français, ce qu'on appelait la concession des bonapartistes, il faut aller dans le sud. Et donc, comme c'était un homme de terrain, qui avait le sens de l'aventure, qui s'intéressait aux Indiens, aussi aux tribus indiennes, donc il est parti vers l'Arkansas, pour trouver une concession pour implanter une communauté française. Et donc il a arrivé en Arkansas, les Américains lui ont dit non, tu passes plus vers la Floride, et là il s'est arrêté en Alabama où il a créé Demopolis, qui est devenu Aigleville, Demopolis. Et donc là il réclamait un grand cri, évidemment, parce qu'on lui envoyait des généraux, on lui envoyait des militaires, il réclamait un grand cri d'avoir des ingénieurs, des artisans, parce que c'était ce dont il avait besoin. Ça n'a pas été un grand succès. C'est vrai qu'entre temps, j'ai oublié de vous dire qu'on lui avait fait des grandes propositions pour venir à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi ? Parce qu'on avait essayé de... Comme il avait une carrière d'homme d'État, juriste, carrière, et on avait besoin de gens compétents pour créer l'État de Louisiane, parce que les Américains avaient demandé aux Louisianais, aux créoles de Louisianais, de mettre en marche toute la législation de la Louisiane. La Louisiane a encore une partie de sa législation qui est sous le corps de Napoléon. C'est une exception aux États-Unis. Notamment la transmission des propriétés se fait encore selon le camp de Napoléon. Mais Jean-Gustin Peignière était plutôt branché aventure que carrière politique. Donc il a préféré l'aventure à une vie confortable dans le milieu de la Nouvelle-Orléans, des créoles de la Nouvelle-Orléans. Donc déçu de son expérience de Démopolis, parce qu'il était un petit peu à bout de souffle, hein, parce qu'il était à la fois architecte, constructeur, il s'occupait de la gestion de des ressortissants français, eh bien, il était un peu fatigué de tous ces déboires et puis des spéculateurs américains qui commençaient à s'intéresser à cette ville. Et à ce moment-là, les Américains, le président américain lui a recommandé, lui a dit « Écoute, tu vas t'occuper des affaires des Sémioles, donc des tribus indiennes qui se trouvaient en Floride ». Et il est mort relativement jeune, puisqu'il est mort, il est embarqué par la fièvre jaune dans la ville de Saint-Augustine. Saint-Augustine en Floride, qui est une des plus anciennes villes de la Floride. Voilà. Donc il me reste surtout essayer de voir, prospecter à propos de tous les émigrés, parce que là on parle plutôt des gens, des militaires, des chevaliers, des gens qui ont une compétence reconnue ou qui ont qui ont un métier spécifique. Mais par contre, y a tous les passeports qui ont été émis à Bordeaux qui restent à être épluchés. Et ça concerne des artisans, des commerçants. Et il y a un sujet qui m'intéresse, c'est les licoristes. Alors, les licoristes, pour la bonne raison que la Nouvelle-Orléans, c'est le pays du cocktail. Et le cocktail, eh bien, il semblerait que ce soit un apothicaire venu de la rue Fondodèche à Bordeaux, qui s'appelait Péchaud. Et le Péchaud-Bitter, là-bas, est très connu. Et c'est à base de gentiane. Donc, comme la gentiane, c'est pas trop une plante qu'on trouve en Louisiane, qu'on cultive, dans les Pyrénées non plus. Donc, je crois que ça vient plutôt du Massif central. Et c'est, à mon avis, c'est peut-être aussi passé par... Parce que la Corrèze est quand même sur le port d'embarquement de beaucoup de Corréziens. C'était ou Bordeaux ou Cadix. Et là, on rejoint ma copine Chantal. C'est pour ça que quand on va à Cadix, on trouve des similitudes aussi avec Bordeaux. Ah, et la Louisiane, on trouve, il y a des choses, il y a quelque chose à bien identifier. Mais donc les licoristes m'intéressent. Alors le cocktail, vous avez des cocktails Rofignac. Rofignac, c'est un homme qui est parti de la Dordogne et qui a donné son nom à un célèbre cocktail. Le Péchaud-Bitter aussi. Alors à l'époque, il mélangeait, il prenait le cocotier comme les Américains font, one spoon, une cuillère ou one cup pour les mesures, vous voyez, ça, ils prenaient le cocotier, c'était leur mesure, et ils mettaient un cocotier de Péchaud-Bitter, donc de cette liqueur de gentiane, et ils mélangeaient avec deux cocotiers de cognac à l'époque, qui a été remplacé après par le whisky après 1862.
Cocktail,
voilà. Parce que tu me demandais comment on peut prononcer Juillac en anglais. Bon, ben, les Américains n'étant pas cocotiers, ils ont cocktail, là. Voilà.
C'est pas une queue de coq.
Non, c'est pas une queue de coq. C'est un cocktail. Voilà. Donc, vous pouvez encore boire dans les grands restaurants de la Nouvelle-Orléans tous ces cocktails, les Péchaud, Bitter, le Rofignac. Voilà, il y a une tradition vraiment de liqueur très importante. Herbsin aussi, de tout ce qui est à base d'absinthe, d'anis. Enfin, je veux dire, il y a un musée des cuisines du Sud qui, à la Nouvelle-Orléans, qui est fort intéressant parce qu'ils ont recensé toutes les marques anciennes. Et donc, on retrouve beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on arrive, ou les catalogues aussi, on peut voir tous les anciens catalogues de négociants, de vins de Bordeaux, de liqueurs. Donc, il y a tout un travail d'analyse intéressant. J'avais interrogé Madame Denoy, mais ce qui m'intéresse, c'est pas la période de Louis Denoy, parce que Louis Denoy a eu un prix à Saint-Louis, Missouri. Donc, Saint-Louis, Missouri, là aussi, il y avait une histoire française. Saint-Louis, Missouri, mais ça, c'est en 1920. Donc, c'est plus trop frais. Donc il faut remonter. Alors c'est Pierre Lacoste qui m'intéresse. C'est celui qui venait avant lui, avant la famille Denoy. C'est là où il y a peut-être des choses à trouver. Enfin, vous voyez, il reste encore beaucoup de choses. Mais il se dessine quand même des orientations par des lieux de visite à découvrir. Alors là, je suis désolée pour la qualité de ce document, mais il m'a été envoyé, je ne peux pas faire mieux. Mais c'est voilà, l'inauguration de la salle Pradel de la Masse. Donc c'est Pradel de la Masse qui sont allés le 1er novembre à la Nouvelle-Orléans en grande délégation qui a été reçue par le maire, la mairesse de la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est le bateau, la Dauphine, sur lequel Pradel, le sieur Pradel s'est embarqué. Et puis, qu'est-ce que nous savons de ce monsieur Pradel? Je vais vous dire. Donc, chevalier Pradel, Jean-Charles de Pradel a traversé l'Atlantique en 1715 sur le bateau la Dauphine avec 60 militaires et une quarantaine de familles d'immigrants. L'enseigne de vaisseau Jean-Charles de Pradel de la Masse n'avait que 23 ans. Et fut vite nommé lieutenant de compagnie. Ces jeunes officiers étaient venus coloniser ces immenses régions et les pacifier. Voilà. Donc, vers 1718, il découvrit le site de la Nouvelle-Orléans et fut à l'origine aussi de la création du fort d'Orléans en 1722. Le fort d'Orléans se trouve plus au nord, dans le Missouri. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour... ce que j'ai pu trouver sur Pradel. Et voilà donc l'ouvrage qui est fort intéressant de, par Victor Faure. Monsieur Delos m'a dit qu'il avait travaillé dessus. J'ai contacté un certain monsieur Delos qui m'avait été recommandé par la famille Pradel. Et ce monsieur m'a donné une dizaine de noms que je n'ai pas intégrés dans mon PowerPoint, qui sont fort intéressants et qui concernent beaucoup le Canada et aussi notamment les Cardaillacs de Végène qui se sont implantés au Canada. Il faut que je vois avec la propriétaire de Cumont parce qu'ils ont eu la famille, une famille Cardaillac de Végène du Canada qui est venue au château de Cumont et qui a voulu remonter aux origines de leurs ancêtres. Voilà. Donc Jean-Augustin Peignière, j'ai rencontré une descendante cet été, une jeune dame de 94 ans. Je dis une jeune dame parce qu'elle était comme Madame Kelly, d'une vivacité hors norme. Et elle fait partie de 20 sociétés savantes entre le Louvre et la Corrèze. Donc c'est vous dire que c'est un personnage. Et quand elle repart à Paris, elle vient d'Argentat, elle prend le train à Brive, elle prend le bus, puis le train à Brive. Enfin, c'est un parcours de combattant, vu son âge, mais elle a fait toute sa carrière à l'Orstom, c'est l'office de recherche scientifique et technique et des territoires d'outre-mer. Donc elle connaît très bien la Papouasie, elle connaît très bien l'Afrique. Et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer, je lui ai demandé quels étaient ses thèmes de recherche. Donc, elle était Papouasie, Amérique et tout ça. Afrique, sauf Amérique. Et elle me dit, et vous ? Ah ben, je suis Amérique francophone. Alors, elle me dit, ah ben, c'est là qu'elle m'a raconté qu'elle avait un ouvrage de Jean-Augustin Peignière. Donc, voilà. Et c'est très intéressant parce qu'il décrit un petit peu ses découvertes des Indiens. On voit que c'est un homme qui aime beaucoup le terrain, qui a aussi le sens des affaires, c'est-à-dire qu'il voit tout de suite... dans ces régions sauvages, tout le parti à prendre. Donc il y a un côté un peu le bon sens, le bois, ce qu'on peut, comment l'exploitation, on peut faire du bois en Louisiane pour construire des meubles, pour construire des charpents. Enfin, il y a ce côté un petit peu très terrien. Voilà, et alors je vais terminer par une photo un petit peu glamour, si je puis dire, mais un petit peu amusante, parce que j'ai trouvé ça dans Paris Match récemment, comme quoi le hasard, ça surprend, en avril 2018. Donc toute cette dynastie qui pose, là, très sérieuse, et puis on vous dit que voilà, c'est là que comte Pierre de Lavergne, originaire de Brive. Donc voilà, donc il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur cette famille. Donc j'ai activé mon réseau à la Nouvelle-Orléans pour dire est-ce que vous connaissez. Alors on m'a dit oui, tu viens un peu tard parce qu'il y a un certain Louis de la Vigne qui était l'historien de la famille, qui connaissait beaucoup de choses, malheureusement est décédé. Et on m'a dit bonne chance pour trouver quelqu'un dans la famille, donc il faudra peut-être que je passe par d'autres interlocuteurs. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer en quelques mots brièvement. Des objectifs qu'on se fixe, si vous voulez, sur une finalité pratique de vulgarisation de l'histoire et de la rendre accessible au plus grand nombre par des brochures ou par de l'événementiel. Voilà. Et puis, bah, le financement, bah, on frappe aux portes, voilà, on n'attend pas et on fait des propositions. Donc, voilà. Donc, vous êtes les bienvenus, si vous êtes au mois de mai, dans les parages, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire entre la Louisiane et la Corrèze. Voilà. Je vous remercie.